Il faut bien savoir que notre monde vit des guerres sans connaître les vraies guerres absolues. Et il me semble, quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, j'en ai pas vu plus grande et plus forte que celle annoncée par ce Jésus de Nazareth. Il a une particule, les Français l'aiment bien, surtout à Versailles. Il a une noblesse mal comprise parfois, mais ce rabbin provocateur qui n'est sorti de sa cellule de charpentier, car il était charpentier, que 30 ans après. Imaginez ce célibataire de la Terre Sainte, de ce village retiré. Nos frères les musulmans, et là je provoque car c'est une habitude libanaise et non pas un tic de dire toujours frères musulmans, frères juifs, frères protestants, frères athées, frères perdus, frères égarés, qu'importe, mais c'était une provocation de sa part d'attendre si longtemps. Et Charles Péguy disait 30 ans de vie privée et 3 ans de vie publique. Il n'a pas fait carrière. Il n'est pas cet universitaire qui veut enseigner jusqu'à 90 ans et qui mourra dans un amphithéâtre célèbre à la Sorbonne. Je crois que c'est celui de Michelet. On met là une plaque car il refusait la retraite. Il a enseigné jusqu'à 88 ans. Ce professeur mémorable qui voulait transmettre plus de 50 ans de carrière. Et rien ne passe, rien ne reste. Que des messages, que des publications, des compilations historiques, comme disait Fénelon à l'Académie française. Pas une vision, pas une seule. Et quand une vision arrive, c'est pour perturber l'humanité. C'est Hegel qui restera pour la modernité. Il engendra Genuit Marx et il engendra le communisme. Et il engendra le reste. Mais si je reviens à Jésus de Nazareth, car sa guerre n'a pas de répit. Il l'a laissé. Je suis venu vous apporter la guerre. Et pas seulement une guerre entre nations, mais entre le gendre et la bru, le père et le fils. C'est-à-dire la guerre la plus cruelle qui soit, la proximité charnelle, le paradigme absolu offert par un Dieu créateur pour nous apprendre à vivre, à aimer comme un frère, comme un père, comme une mère. Voilà que la guerre se déclare là, et elle reste. Mais celui qui a dit cette guerre a été encore plus provocateur. Et je ne vois pas, en dehors de Jésus de Nazareth, un homme, et je laisse entre parenthèses Dieu pour le moment, plus provocateur que cela. Il n'a pas dit « je suis homme-dieu », il a dit « je suis le Fils de Dieu ». Et n'a-t-il pas, par cette seule formule, provoqué toutes les religions païennes, les hauteurs de l'Olympe, les Grecs, les Romains et même les Perses antiques. Là, vous pouvez savoir que celui qui nous provoque de cette manière a laissé une formule encore plus provocatrice. Qui suis-je? C'est la question qu'il n'arrêtait pas de poser à ses disciples, ces pauvres disciples spécialisés de Tibériade et de ses poissons qui n'ont jamais appris à commenter les Écritures dans le temple, qui peut-être parlaient mal l'hébreu. Ils avaient ce pauvre dialecte araméen de celui de la Vierge Marie, proche de la Sainte Terre. Aujourd'hui, le pape François l'a déclaré la Sainte Terre du Liban. Et ce dialecte était celui des pauvres, car la Galilée fut toujours la Galilée des nations, c'est-à-dire le passage de tout le monde, proche qu'elle est de ce Liban païen pour les goïms de l'époque. Et cet homme qui n'a fait que 3 ans de carrière, disons, et qui nous a marqués pour toujours, a laissé une autre phrase qui, je crois, être la plus grande déclaration de guerre à toutes les spiritualités et toutes les religions. Qui suis-je? Je suis le chemin, la vie et la vérité. Et avec ces 3 V, si je la prononce en latin, via vitae in veritas, nous ne pouvons pas répondre en dialectique. Il faut autre chose que la dialectique. Il faut un dialogue intérieur et nous verrons comment le mener. Beaucoup l'ont mené depuis le Christ lui-même, depuis les égarements des premiers siècles, depuis le baptême de l'Empire romain, depuis Constantin, puis toute l'époque médiévale, des sommes théologiques entières, J'ai vu les pères jésuites de Chantilly à Gouvieux, où que j'ai habité pour la recherche dans cette magnifique bibliothèque privée d'Europe extraordinaire, des manuscrits des Maïmonides, tout. J'ai vu le jésuite vendre ses sommes théologiques pour rien. La somme Suarez, saint Thomas d'Aquin, tout partait, Dan Scott. Cette époque médiévale qui n'a fait qu'interroger la seule question possible et imaginable pour eux. Ce qui suis-je est le rapport de la raison et de la foi. La somme contre les gentils, une des plus brillantes de saint Thomas. On l'ignore pour des références obscures de prima pars ou seconda pars, mais en fait il y a plus que cela. Il y a chez Thomas d'Aquin une âme d'une intensité réelle pour dialoguer avec les gentils. Et cela se poursuivra, mais les Lumières étaient là pour nous perturber, la Révolution française pour détruire les églises, et bien sûr, Hegel, je dirais pasteur protestant raté, car dans le Stift allemand, il n'a pas pu aller jusqu'au bout, ils étaient tous vaguement augustiniens, et Augustin perturbe. Et celui qui a dit que l'Église se base sur deux piliers théologiques, Augustin et saint Paul, ne s'est pas trompé, mais il a dit autre chose aussi, que deux peuvent provenir par une mauvaise lecture toutes les hérésies que nous connaissons. Si nous ne pratiquons pas aujourd'hui l'augustinisme comme il faut, on va chercher chez lui un problème à l'immigration. Une jeune philosophe, qui n'est plus aussi jeune, a tenté dernièrement pour dire « Augustin et nous », et puis voilà, l'émigration pour ce berbère qui n'aimait pas voyager, et dans l'émigration des Vandales, le perturber. Des analogies que je trouve un peu inquiétantes. Car chez Augustin comme chez Paul, il y a peut-être la solution. Mais pour cela, il faut une vie de moine, une vie de théologien, comme au temps du Moyen-Âge, pour percer ce mystère et nous offrir une méditation sur le dialogue du christianisme avec les autres religions qui vaille la peine pour moi et pour ceux qui écoutent ces émissions d'être interrogés. Je vous laisse la surprise de cet invité et je laisse Handel revenir avec ses trompettes. Et voilà. Que notre invité se prépare, que... Oui. Ma Claudia se prépare et nous pouvons peut-être ajourner ce moment musical pour recevoir mon invité, Pierre-Édouard Marie Gallès. C'est toujours troublant d'appeler quelqu'un père, Pierre-Édouard Marie, mais vous êtes sûrement avant tout un moine et je vous ai connu comme cela de la communauté Saint-Jean, chercheur éminent et puis très 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 précis, assez précis pour avoir des ennemis. Et dans ce livre qui s'appelle « Le christianisme face aux autres religions, Jésus-Christ est le centre de l'histoire », chez Arthège, publié là, il y a à peine quelques mois. Donc nous allons interroger absolument, faire ce chemin avec vous de cette provocation radicale de Jésus-Christ dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Vous qui baignez dans la théologie, ces problèmes étaient bien résolus depuis l'époque médiévale. C'est l'époque qui vous a inquiété?
D'abord, merci beaucoup de me recevoir. Oui, j'ai entendu votre introduction à propos de l'époque médiévale. L'époque médiévale n'avait pas énormément de lien avec les chrétiens d'Orient. Je ne parle pas de Byzance, mais ceux qui sont encore plus à l'Est. Par rapport à l'islam, ils ont considéré, notamment avec saint Thomas d'Aquin, simplement que l'islam était inspiré par des forces démoniaques, en utilisant d'une certaine manière la mystique musulmane elle-même, qui fait allusion à la dictée par un ange au prophète Mahomet, et puis aussi à deux versets sataniques où le texte coranique semble faire l'apologie de l'idolâtrie. Des versets, d'ailleurs, vous le savez bien, qui ne sont pas toujours imprimés dans les éditions actuelles du Coran. Alors, on a brodé là-dessus en Occident en disant « Ah, mais c'est pas l'ange Gabriel qui a inspiré Mahomet, c'est le démon. » En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Le texte coranique avait une histoire tout autre, et justement toutes ces légendes de dictées angéliques ou éventuellement même de deux versets qui auraient été dictés par le démon, donc les versets dits sataniques, n'ont jamais eu pour but que d'occulter la véritable histoire. Vous savez, quand on raconte des choses qui sont invraisemblables, c'est pas parce qu'on est idiot, c'est parce qu'on a envie de cacher quelque chose. Et ça, on n'a pas bien compris au Moyen Âge. Il y a quelques chercheurs quand même hein, autour de Gerson qui, ou de Pierre le Vénérable qui avaient commencé un véritable travail de recherche, mais il n'y a pas eu de suite sérieuse. Raymond Lulle, bien sûr, aussi. Il n'y a pas eu de suite sérieuse avant finalement, je passe les siècles, hein, mais avant... L'Autriche au XIXe siècle, en milieu juif assez laïque. Ce sont vraiment les premiers islamologues modernes. C'est étonnant, hein?
Ah oui, absolument. Mais vous centrez un peu sur l'islam. Pour moi, l'époque médiévale, bon, les sommes tournaient autour quand même de ce dialogue de la foi et la fides et ratio, et puis de chercher ce qu'on appelait la pace fidei. Il voulait absolument et dialoguer avec la raison avant, bien sûr, de dialoguer avec l'islam était une chose importante parce que Hegel était en train de se préparer depuis Joachim de Flore et tout ça pour la dialectique. Mais la question que je voudrais poser avant d'aborder un peu votre livre et vous laisser un peu nous faire découvrir votre thèse, c'est que finalement Pierre le Vénérable, quand il a fait traduire aux moines de Saint-Victor, si je ne me trompe pas, quand il a lu la traduction de l'arabe en latin, la première d'ailleurs, qui, rappelez-moi, c'est 1141, c'est ça, quelque chose comme ça. Et
Oui.
la réaction de Pierre le Vénérable, elle est tout à fait digne d'un chrétien d'Orient, c'est-à-dire, c'est l'arianisme, allons aux vêpres. Il a un peu senti ce refus du Christ Dieu, de la Marie-Mère de Dieu, qu'ils aillent en enfer s'ils disent qu'il est fils de Dieu et qu'il est mère de Dieu, c'est déjà, les versets sont clairs. Il a dit, bon, c'est de l'arianisme. Donc, il a résolu le problème en mettant l'islam du côté de l'hérésie.
Oui, et peut-être avait-il lu Saint Jean de Damas, qui est le premier à avoir qualifié la religion des Magraïeux, donc qui commençait à peine à s'appeler islam, comme un arianisme. Mais on aurait voulu que Saint Jean de Damas développe beaucoup les choses. Malheureusement, sa notice est extrêmement courte, et toute la question est de savoir ce qu'on entend par arianisme. En fait, il s'agit d'abord et avant tout d'un messianisme qui, au fond, diminue Jésus, réduit Jésus dans sa royauté et bien entendu dans sa divinité, pour que cette dimension royale soit reportée sur le roi ou l'empereur sacralisé. C'est ça le fond de l'arianisme que vous retrouviez aussi chez les Goths, les Visigoths, etc.
D'accord.
Et bien entendu, si Jésus n'est pas vraiment roi, il n'est certainement pas Dieu, mais il est le Messie, c'est une espèce de surhomme que Dieu utilise pour établir ce qu'on voudrait du royaume de Dieu sur la terre, et s'il ne le fait pas lui, ben on le fera à sa place. C'est ça en résumé l'origine de tous les messianismes.
Absolument, mais vous, pour commencer dans votre livre, vous commencez par examiner ce messianisme qu'on vous dit qu'on n'aurait pas soupçonné depuis le début. Et ça ouvre un peu le premier chapitre pour parler du discours religieux. Et vous établissez des schémas qui montrent un peu comment, dans la vision islamique de l'histoire, de l'obscurantisme, on passe à la lumière de Dieu et d'un côté à l'âge des Lumières. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer votre vision ici?
Alors, j'ai pris effectivement deux exemples qui ont l'air antinomiques. D'un côté, la dialectique islamique et de l'autre, la dialectique laïque qui règne en France et en Europe depuis la Révolution française. Et puis aussi aux États-Unis, si l'on veut. Dans les deux cas, on a affaire à une représentation de l'histoire en termes de salut. Le passé est mauvais, il faut s'en affranchir. Le présent est un présent de combat et on va avancer vers un avenir radieux. On est habitué en Occident à comprendre cette chose, cette pensée dialectique par rapport aux grandes totalitarisme qui ont ensanglanté le XXe siècle, mais on oublie que, ou on n'a même jamais pensé que l'islam fonctionnait de la même manière avec la jahiliya, donc l'obscurantité, puisque c'est comme ça littéralement, c'est ça que ça veut dire, cette espèce d'air de l'ignorance qui aurait régné sur l'humanité avant la lumière apportée par Mahomet, et dans un troisième temps qui doit encore venir, le triomphe de la lumière qui sera donc l'établissement de l'islam sur toute la terre. Le fonctionnement des deux types, enfin, présentés en parallèle dans le livre, les deux types de messianisme est tout à fait confondant. Mais il y en a beaucoup d'autres qui, c'est toujours un peu le même fonctionnement.
Oui, tout à fait. Et j'étais très heureux de voir que vous commencez par interroger, après cette analogie, le cardinal Nicolas de Cusa du 15e siècle. Et je me rappelle que nous deux, nous avons un peu travaillé ensemble pour un projet pour traduire Cribratio
Oui.
el Corani. Et
Oui.
j'ai été à Cusa même regarder ses manuscrits, et je trouve ouvrir votre dialogue de la religion avec lui est très enrichissant, parce que vous parlez dans son livre, autre que Cribratio el Corani, l'autre de Pace Fidei, vous parlez un peu de ce désir de Dieu qui est presque providentiel d'unir l'humanité dans une religion unique qui se terminera à Jérusalem. Et vous le citez en disant: le Seigneur a eu pitié de son peuple, et lui est agréable que toute la diversité religieuse, par le consentement commun de tous les hommes, soit ramenée dans la concorde, à une religion unique. Ce soin de réunir toutes les religions, Dieu l'a remis entre vos mains, vous qui êtes l'élite de l'humanité. Alors là, dans Pace Fidei, il s'adressait à qui?
Donc, il s'adresse effectivement aux représentants de toutes les religions du monde. Évidemment, il s'adresse de fait aux catholiques qui liront son livre.
Mais
Je le
surtout à
cite.
la Société des Nations des Religions. Il voulait un peu imaginer
Oui.
l'unité avant qu'elle ne se fasse, ou qu'elle ne se
Oui,
fît.
un conseil, si vous voulez, c'est l'idée d'un conseil mondial des religions. Si je ne me trompe, il existe depuis la fin du 19e siècle.
Oui.
Je ne suis pas sûr que Nicolas de Cusa ait été le premier à y penser. Il est possible que les Templiers y aient pensé aussi. Mais ça, je ne vais pas m'avancer dans cette hypothèse. Mais en tout cas, lui, il a écrit et décrit. Mais là, je cite justement pour dire que l'idée est séduisante, mais certainement pas bonne.
Et le
Pourquoi?
danger serait où à ce moment-là?
Bien. En fait,
C'est le syncrétisme.
le syncrétisme, bien sûr, ça, c'est la moindre des choses. Le syncrétisme consiste à croire que, il y a, comme on dit un peu bêtement, il y a de la vérité partout, donc il suffit d'aller prendre un petit morceau par-ci et par-là, on va rassembler tout et on aura la vérité. C'est malheureusement pas comme ça que ça marche. Peut-être que ça marche comme ça dans certains domaines techniques et encore, mais certainement pas dans les choses humaines.
Donc, chez vous, j'ai vu dans ce livre une tentation qui est, pardonnez-moi, père, de vous dire qu'un peu hégélienne, d'organiser les religions autour d'un pôle. Mais avant d'arriver à ce pôle, comme le père Édouard-Marie Gallès que je reçois autour de son dernier livre, Le christianisme face aux autres religions chez Arthège, je reviens aux préludes de Chopin qui vont nous permettre de, comme une grammaire, de méditer ça avec l'interprétation d'Eric Heitzig. De Ré majeur, ces préludes que Chopin a écrit presque entre 30 secondes et pas plus que 5 minutes. Toute œuvre, toute grande œuvre, tout chef-d'œuvre est limité, comme disait Goethe. Et pour limiter ce dialogue des religions, le père Édouard-Marie Gallès que je reçois et qui, n'oublions pas, cher Français, est dans un pays qui est une monarchie et qui est... chaque jour accueille son roi, sa princesse. Quand je vais voir mon frère là-bas, je suis très heureux de savoir qu'il y a des rois, des princesses encore quelque part. Il est donc de ce royaume belge que nous aimons tant. Alors père, pourquoi cette tentation d'organiser un pôle? Vous n'aviez-vous pas peur d'une systématisation redoutable, comme chez Hegel?
Mais, et peut-être d'une certaine manière pire encore. Mais si on, alors on fonde des choses. Le problème de fond, c'est la perspective de la venue glorieuse de Jésus et de ce qui suivra. S'il n'y a rien après, inévitablement, les penseurs chrétiens seront tentés d'imaginer une manière de réaliser le royaume de Dieu, peut-être pas de leur vivant, mais au moins dans un avenir plus ou moins proche, puisqu'il n'y aurait rien après donc la venue glorieuse. On imagine celle-ci comme une espèce de point final, Dieu détruirait l'humanité irrémédiablement corrompue, donc ça c'est le protestantisme luthérien. Ce monde ne serait qu'un vaste théâtre dans lequel nos âmes peuvent gagner des mérites pour aller au ciel. Et une fois que la pièce de théâtre sera finie, Dieu va détruire les décors et point à la ligne. Bon, c'est une vision extraordinairement pessimiste. Et donc, si on y croit ou si c'est la perspective implicite ou inconsciente qu'on a en tête, ou qui est enseigné, on va trouver quand même une espèce de positivité dans l'espérance d'un avenir à Dieu sur la terre avant la venue glorieuse de Jésus, bien entendu.
Et donc, cette manière n'est envisageable que si on rentre dans l'historicité de l'histoire, de la foi.
Une historicité dévoyée. C'est-à-dire que la pensée moderne est complètement noyée dans des sens de l'histoire qui sont divers. Chaque messianisme donne son propre sens de l'histoire, sauf que le véritable sens de l'histoire, c'est le sens révélé de l'histoire qui nous est donné par la révélation et pour commencer par le Nouveau Testament lui-même. On peut y ajouter, bien sûr, Saint Irénée. Soit dit en passant, Saint Irénée n'était pas connu au Moyen-Âge. Enfin, on savait ce qu'il avait écrit comme livre, mais on ne connaissait ses livres que par quelques citations. Et ça, c'est évidemment dramatique, parce que Saint Irénée nous permet d'interpréter correctement un certain nombre de passages du Nouveau Testament, qui sont quand même pas si compliqués que ça, mais on avait pris l'habitude, à cause de saint Augustin, de les interpréter de manière très morale et anhistorique, alors qu'il parle de la venue glorieuse, etc., de ce qui se passera autour.
Oui.
Les gens, l'être humain a besoin d'espérer. Si vous lui enlevez la vraie espérance, il va en chercher une autre.
Oui.
C'est aussi bête que ça.
Oui, mais une pensée me vient à l'esprit, Père, dans ce cadre de classer les religions. Bon, on voit très bien, vous avez fait plusieurs cercles, et pour mes auditeurs, je leur dis, on voit un cercle de l'Église catholique, et progressivement autour, les communautés chrétiennes autres, protestantes, et vous tirez toutes les conséquences comme l'a fait génialement Saint François de Sales, après les Juifs, les musulmans, les autres croyants, et puis les non-croyants. Pour qu'on puisse se permettre une telle classification par notre pauvre intelligence humaine, c'est que quelque part, Dieu, s'il a choisi de nous révéler le sens de l'histoire en laissant incarner sa deuxième personne, d'une certaine façon, sa pensée réelle et sa parole, puisqu'il est la pensée, il est sa parole, son fils, c'est que quelque part, l'homme étant considéré par le Dieu créateur comme incapable de se sauver lui-même, la variété des religions, tant que l'Apocalypse ne s'est pas fait, tant que le deuxième retour du Christ comme juge ne s'est pas fait, est presque comme permis par la Providence pour éprouver l'homme, à commencer par l'islam, comme d'autres l'ont dit.
Oui,
Quelle
on
est
a
votre
beaucoup.
réaction?
Ben, de fait, on a beaucoup présenté l'islam en Orient comme un châtiment des péchés, mais la question n'est pas là. Bon, c'est une manière de se consoler. Vous citiez les cercles concentriques avec donc l'Église catholique au milieu, puis les différents cercles de classement des gens en fonction de l'éloignement de leurs convictions supposées par rapport aux vérités professées par l'Église catholique. Donc c'est la vision d'Ecclesiam Suam de Paul VI et aussi du Concile. Et c'est cette vision qui va en quelque sorte être obligatoire à la suite du Concile. Et c'est une vision de type sociologique. On classe les gens en fonction de leurs convictions supposées, ou plus exactement, c'est un peu comme un listing. Au centre, on aurait le pape avec, et l'Église catholique avec 100% de vérité, et puis les cercles concentriques autour avec un pourcentage de vérité en diminution progressive. Mais cette vision est une vision qui ne correspond pas à ce que à la réalité. On pouvait soulever plein d'objections, par exemple, de selon ce schéma, un juif serait plus proche de la foi chrétienne qu'un musulman ou qu'un athée. Bon, ça c'est de la fiction. L'erreur est de vouloir faire un listing de vérités à croire et puis de cocher ou pas selon le cercle dans lequel on met les gens.
Absolument. Et de là viendra la tentation d'un certain relativisme. Et chers auditeurs, pour laisser l'honorable père, le révérend père, Édouard-Marie Galèze, que je reprends son nom pour ceux qui nous ont rejoints, je laisse Chopin encore nous consoler de ses notes, de ses préludes, et je reviens pour voir comment la foi chrétienne, père, a un impact direct et indirect pour continuer la croisière de votre livre. Alors, le naufrage est possible. Cette tonalité de si mineur qui, comme une larme chez Chopin, nous permettra de revenir et d'éviter de verser une larme pour ceux qui tombent dans les tentations du relativisme. Et n'empêche, Père Édouard-Marie Galèze, dans ce chapitre du livre, vous allez prendre l'impact direct et indirect. Et je vous laisse expliquer comment, pourquoi y a-t-il cette dialectique binaire chez vous?
Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur ce qu'on disait, à savoir que la grande erreur est de vouloir comparer. Bon, on fait peut-être ça en apologétique. Alors, la comparaison consiste à dire, voilà, finalement, nous sommes meilleurs que les autres, le christianisme est meilleur que les autres, mais les autres vont dire exactement l'inverse. Donc, je ne suis pas sûr que ça avance beaucoup. Mais en faisant ça, on fait fi de l'histoire. Si nous sommes dans une histoire, si la vie chrétienne est participée à une histoire, c'est sous cet angle-là qu'il faut voir toutes les choses humaines. Et bien entendu, c'est la clé. Une clé qui manque terriblement à la théologie depuis trop longtemps. C'est-à-dire qu'il faut voir les choses telles que le sens révélé de l'histoire nous le suggère. Et c'est très simple. Fondamentalement, il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. C'est bête à dire, mais c'est ce que tout le monde oublie. Les sociétés, le monde, globalement le monde avant Jésus-Christ, n'est plus le même à partir du deuxième siècle. Le premier siècle a été un changement extraordinaire, d'abord au point de vue spirituel et ensuite avec toutes sortes de conséquences. On peut dire que ce changement commençait déjà un petit peu par toute la préparation juive qui a eu un énorme impact dans le monde antique, ne serait-ce que parce que les Hébreux étaient, semble-t-il, 2 à 3% de la population mondiale, ce qui est énorme. Et ça a bien servi l'Église par la suite, puisque grâce à la conversion de beaucoup, l'évangile a pu se répandre partout où les communautés juives étaient implantées, c'est-à-dire un peu partout dans le monde. Donc il y a un avant et un après Jésus-Christ, et dans cet après Jésus-Christ, il n'y a malheureusement pas seulement l'expansion dans tout le monde antique de l'annonce chrétienne jusqu'en Chine, mais aussi, assez vite, des contrefaçons. Et il faut vraiment comprendre le mécanisme de ces contrefaçons à la base. C'est vraiment plus important que d'essayer d'en faire des catalogues. Quand on parle de contrefaçon,
Les faux messies et les faux prophètes, c'est ce que vous appelez
oui,
cela.
et ce qu'on appelait traditionnellement hérésie, en tout cas c'est comme ça que les pères grecs les appelaient. Ces contrefaçons donc, du christianisme de manière messianiste ou de manière spiritualiste, elles se sont répandues également dans le monde à la suite de la première évangélisation. Ce sont en quelque sorte deux manières de renier ou de déformer l'annonce chrétienne en la récupérant. Alors, les premières formes de messianisme ou de spiritualisme parlent de Jésus-Christ, bien entendu. Ça se fait au nom de Jésus, mais ce n'est plus le véritable Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est, pour ce qui est du messianisme, comme on a déjà eu l'occasion de le dire un peu plus tôt, Jésus devient une espèce de surhomme qui est employé par Dieu pour établir son royaume sur la terre. Et bon, et si ça ne marche pas, il est ramené au ciel. Hein, par parenthèse, c'est ça la raison de l'enlèvement de la croix de Jésus qui est indiquée à la fin de la sourate 4 du Coran, mais déjà dans des apocryphes antérieurs, le Messie ne pouvait pas mourir sur la croix. Il n'avait pas pu réaliser sa mission qui était d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Et donc, Dieu le retire dans l'attente de jours meilleurs. Et alors il redescendra sur la terre pour faire ce qu'il n'a pas pu faire il y a 2000 ans, puisqu'on l'a empêché. C'est ça la première idée messianiste. Donc, c'est la question du royaume de Dieu sur la terre. Et la contrefaçon spiritualiste, elle joue sur un tout autre domaine, le domaine de quelque sorte individualiste, le domaine de l'âme. Comment puis-je me sauver grâce à Jésus, mais grâce à Jésus qui est imaginé comme un guide, non pas comme un sauveur. Et c'est l'origine de ce qu'on appelait les gnoses et tous les phénomènes religieux qui s'y rattachent.
Mais père, il y a là deux nuances à faire qui sont assez dangereuses, parce que si l'on va vers la nécessité historique, et il est certain, les gens oublient, et je l'ai vu dans ma vie d'universitaire, des tentations de ne plus compter après Jésus-Christ, de dire « on ne dira plus après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ », les anglo-saxons l'ont gardé, « on va dire avant notre ère, après notre ère ». Et c'était dans des endroits où ils prétendaient être catholiques. Bon, il y a cette tentation, mais il est évident qu'on compte après lui. C'est déjà beaucoup si on se réfléchit sur cela. Mais l'autre tentation, c'est que si on fait de l'histoire une histoire sociologique, beaucoup d'historiens de l'islam, que vous connaissez mieux que d'autres, vont être tentés de dire que dans l'évolution de l'islam dans le désert d'Arabie, où il y avait déjà des juifs, vous le savez, des communautés judo-nazariennes, et puis une communauté de moines ariens proches bon, de la première épouse, je mets de côté toutes ces nuances, mais c'est de prendre à cœur une interprétation sociologique de l'évolution de la religion de Mahomet comme étant une logique de l'évolution de la civilisation dans le désert et que ce général qui a gagné la guerre et unifié les tribus a fait une bonne chose historiquement et sociologiquement et lui est donné déjà ce rôle historique sans ajouter celui qui s'est ajouté lui-même d'être le dernier des prophètes, le sceau des prophètes. Khatimat al-Anbiya, comme disent les Arabes.
Oui, alors là, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire et il faudrait inviter, par exemple, le professeur Kerr, qui est secrétaire de INARA, et président maintenant d'INARA, pour mettre nos auditeurs au courant des dernières recherches en matière d'islamologie. Le prophétisme même de Mahomet, et M. Alfred-Louis de Bremer l'avait bien compris, le prophétisme même de Mahomet est une invention tardive pour cacher un processus qui relève bien davantage d'une décolonisation, une espèce de décolonisation de l'Est de l'Empire byzantin et de prise de pouvoir par des tribus arabes sur la Perse qu'autre chose. L'islam est pour une part la justification d'un pouvoir politique qui a été pris sur une vaste zone du Proche-Orient, en utilisant, mais en déformant aussi, une tradition messianiste antérieure. Alors, c'est ça qui est un petit peu complexe à comprendre. Il faudra faire une émission spéciale là-dessus.
Et c'est ce que vous appelez les fondements des post-christianismes.
Alors moi, je me suis, ces dernières années, je me suis attaché à ce qui est le substrat, donc l'héritage antérieur à l'islam, qui se retrouve dans l'islam, et qui est cet héritage messianiste judéo-nazaréen, d'autant plus que les chercheurs ont maintenant bien repris le flambeau de la recherche et retrouvent sans cesse des choses nouvelles du point de vue historique sur la manière dont l'islam s'est constitué à partir du proto-islam au 7e siècle et jusqu'à l'islam qu'on connaît qui est du 9e siècle, voire du 10e siècle, avec la théologie des trois religions successives.
Oui. Et j'utilise vos expressions, père, parce que je vous ai lu. Vous êtes un travailleur lent, vous aimez la paresse géniale, je dirais. Vous travaillez lentement, vous vérifiez. Je vais utiliser vos expressions et vous allez réagir. Dans cette contrefaçon, je dirais, vous dites, la contrefaçon est une analogie, pas un concept philosophique. Puis après, vous dites, la dualité de la dimension du salut, il y a une dualité dans la dimension. Il y a même une victimisation et il y a une destruction du passé pour posséder l'avenir. Alors, je prends ces quatre points avec vous. Soyons pédagogiques. Alors, comment vous voyez dans l'analogie une sorte de pur concept philosophique, d'ailleurs, donc qui enlève la possibilité d'un salut de l'âme?
Alors, l'analogie, c'est, ben, là, je vous ferai plaisir, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus oriental qu'occidental. C'est assez subtil. C'est une forme de comparaison où on met en avant quelque chose de commun, mais ce n'est jamais aussi simple que, on pourrait le croire. Ce qu'on comprend facilement dans notre tradition philosophique occidentale, ce sont les monismes ou les dualismes. Monisme, c'est tout ramener à un, les dualismes, c'est tout ramener à deux, donc deux principes contradictoires, mais les dialectiques, que ce soit l'islam ou les autres messianismes ou même les spiritualismes, ne sont ni des monismes ni des dualismes. Même on parle de dualisme, par exemple, à propos de Mani. Manichéisme n'est pas un dualisme, c'est une véritable dialectique, c'est-à-dire que c'est à la fois un monisme et un dualisme. On oppose deux principes pour aller vers un troisième qui en serait la synthèse, en quelque sorte, à la manière hégélienne. Et on recommence indéfiniment. Donc, pour décrire et comprendre ce mécanisme, on a besoin de l'analogie. Le mot contrefaçon renvoie à des choses qu'on peut trouver dans le commerce. C'est la meilleure manière de parler de ce phénomène historique qui est advenu qui est advenu à la révélation chrétienne à cause de certains qui l'ont détourné. C'est-à-dire qu'on garde l'apparence, mais le contenu a changé. Et on en a fait autre chose.
Donc le vrai danger, c'est le détournement du contenu de la révélation. Et là, si on
Détourner.
détourne, on touche à la nature du royaume du Christ et au mystère de cette rencontre avec lui. Mais là, vous utilisez un terme dangereux que seul peut-être Nietzsche est capable de vous rejoindre et plus tard Heidegger, c'est que vous dites, il profite du vide, des vides. Et ces vides qui se mettent dans l'âme humaine, eh ben, on leur met des sortes de prothèses, n'est-ce pas, conceptuelles, qui vont dénaturer la finalité du salut.
Oui, ça, c'est propre à notre histoire de l'Occident, où, à cause peut-être des mécanismes universitaires, tout ce qui échappe à la raison a été mis de côté. Je parle de la question de la rencontre du Christ dans le mystère de la mort et de la rencontre du Christ à la fin du temps actuel et du temps qui suivra. Évidemment, ces questions qui ont trait à l'avenir ne peuvent pas faire l'objet d'études, de recherches rationnelles. Ce n'est pas pour autant qu'on ne doive pas en parler. L'être humain agit en fonction de l'avenir. Bon, il y a les sages qui tiennent compte du passé, mais des sages, il y en a très peu. Les êtres humains, à la différence des animaux, ils agissent en fonction de l'avenir. Si l'Église ne parle plus de l'avenir, eh bien d'autres en parleront à sa place.
Absolument. Et d'ailleurs, il y a des expressions que vous utilisez qui sont assez lourdes, mais c'est exprès. Il vaut mieux traiter les noms des maladies en général sont pas très poétiques. Vous parlez dans le triangle du salut, du danger du messianisme collectiviste et du spiritualisme individualiste. Ce sont deux formes de détournement, ça.
Oui, ce sont les deux formes fondamentales du détournement. Alors, si
Mais
on
qui vont
cherche vraiment.
émaner de l'intérieur de la théologie chrétienne parfois. Et c'est cela qui
Mais
est
bien
dangereux.
entendu.
Voilà, c'est ça qui est
Mais
dangereux.
en fait, tout se joue dès la fin du premier siècle. Bien sûr, on trouve des épisodes postérieurs jusqu'à nos jours. Il peut y avoir encore aujourd'hui des chrétiens qui, après avoir connu Jésus, se détournent de la vraie foi. Mais le véritable problème, les véritables enjeux se sont situés au premier siècle, c'est-à-dire entre la première génération chrétienne et la troisième génération chrétienne. C'est là où nous vivons des conséquences de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ça, c'est une vision de l'histoire qu'il faut absolument répandre. On est habitué en Occident à toujours penser à des nouveautés. On entre dans une ère nouvelle tous les 50 ans ou tous les 100 ans. Non, on est entré dans une ère nouvelle au premier siècle et puis il n'y a plus que des développements de ce qui s'est passé à ce moment-là.
Et pourtant, Père, vous vous confrontez à une des plus belles intelligences françaises, après Pascal. Mais Claude Lévi-Strauss n'est pas n'importe quel intellectuel. Je parle plus de lui que de René Girard, qui, avec sa théorie que vous connaissez très bien, pour moi, dans mes débats avec lui, René Girard à la Sorbonne, lui dit qu'il y a une théologie, une fausse théologie déguisée. Et elle me mettait mal à l'aise. Vous connaissez la théorie de René Girard qui explique.
Oui.
J'aimerais bien avoir votre réaction à l'égard de René Girard, que vous ne citez pas, mais vous citez Claude Lévi-Strauss quand il parle de l'islam. Je lirai sa phrase après avoir eu votre réaction à l'égard de la théorie de René Girard, que finalement, la théorie du bouc émissaire. Comment vous la classez dans les messianismes collectivistes et le spiritualisme
Alors, c'est assez facile à comprendre. René Girard a perçu un mécanisme qui est réel et qui est d'ailleurs propre aux sociétés anciennes ou, si vous voulez, à la nature humaine déchue. Et avec raison, il explique que Jésus vient mettre un terme au sacrifice du bouc émissaire, puisqu'il est lui-même l'objet du sacrifice et le prêtre. Et qu'après lui, donc, on ne peut plus faire comme avant. Le problème de René Girard, c'est qu'il veut réduire l'histoire de l'humanité à ce seul phénomène. Donc, c'est un monisme. C'est un monisme. Et dans un de ses derniers livres, c'est peut-être le dernier, corrigez-moi, Achevé Clausewitz, il va même jusqu'à un pessimisme absolument effrayant, parce que dans sa logique qui pousse jusqu'au bout, il conclut, le christianisme devrait pouvoir éradiquer le phénomène du bouc émissaire. En réalité, ça ne marche pas, c'est même pire qu'avant. Et donc l'humanité va carrément disparaître. Ça, c'est, vous voyez, la logique moniste poussée jusqu'au bout. Il a vu l'aspect messianiste du monde d'aujourd'hui. Il n'a pas vu qu'il y a aussi un autre pendant. Une autre déviation radicale qui ne cherche pas à prendre le contrôle de l'autre. Donc, comme il l'explique.
Bien sûr. Et il a avoué qu'à la fin, qu'il ne faisait que de la théologie déguisée parce que la réponse était déjà dans la théologie. Mais à l'égard de Claude Lévi-Strauss, il y a quelque chose dans sa citation, vous semblez le contester. Et pourtant, en expliquant l'attitude de l'islam, il va essayer d'expliquer l'intolérance musulmane. Et il va dire qu'elle émane finalement chez eux d'un refus d'autrui et ne pas supporter l'existence d'autrui comme autrui et que le seul moyen pour eux, les musulmans, de se mettre à l'abri du doute et de l'humiliation consiste dans une néantisation d'autrui, considéré comme témoin d'une autre foi et d'une autre conduite. La fraternité islamique, dit Claude Lévi-Strauss, est la converse d'une exclusive contre les infidèles qui ne peut pas s'avouer, puisque, en se reconnaissant comme telle, elle équivaudrait à les reconnaître eux-mêmes comme existants. Bon, là, il fait beaucoup d'anthropologie à l'égard de l'islam. Et vous contestez quelle nuance chez lui, là ?
Non, non, je ne conteste pas. Je suis d'accord avec ce qu'il dit.
Mais vous lui trouvez une limite.
C'est une description d'un mécanisme suprémaciste qui va toujours avec les messianismes, et c'est d'ailleurs ce mécanisme suprémaciste que René Girard contestait.
Et pourtant, elle justifie le jizya, elle justifie toute l'attitude de la conquête islamique de mettre sous impôt et sous dimitude tous les peuples conquis.
Voilà, mais c'est justement ce que Girard n'a pas vu, c'est que la raison n'est plus un problème de, comment dirais-je, d'opposition entre personnes traditionnelles, de mimétisme, mais un problème d'idéologie, de salut. Si on est les sauveurs du monde, on doit éliminer ceux qui s'opposent au salut du monde dont on est dont on dit être détenteur. C'est tout autre chose. Et ça, justement, Girard ne l'a pas vu. Et alors, il n'a pas vu non plus que le monde est aussi marqué par, autant marqué par les spiritualismes que par les messianismes. Et les spiritualismes, c'est tout autre chose qu'un mécanisme d'appropriation mimétique. C'est un repli sur soi. Donc,
absolument.
Avec toute sa dimension aussi comment dirais-je, de lien avec des forces spirituelles.
Oui, absolument, Père. Là, si je pars de ces deux rencontres avec des intellectuels qui ont marqué par leur œuvre, qui ont eu une œuvre comme René Girard et surtout Claude Lévi-Strauss, si je passe vers l'hégélianisme, là, j'ai vu comment vous exposez la dialectique de Hegel, de Karl Marx. Or, il y a une chose qui m'intrigue personnellement. On a travaillé à la Sorbonne, parce que je parle plus en ancien prof de philo, proche de bourgeois, de tous ces hegeliens, de tous ces disciples de Fessard, le père jésuite, c'est-à-dire je parle de l'hegelianisme de droite. Vous attaquez qu'à l'hegelianisme de gauche, comme si l'hegelianisme de droite n'a pas le droit de citer. Et pourtant, dans la dialectique, il faut jamais oublier que tous ces Hegel et ses condisciples, en dehors de Hölderlin, qui pour moi est un vrai mystique, une poésie supérieure que Heidegger a réinterprétée dans sa vision du Christ de la série, comme l'appelle Hölderlin, cette vision qu'il a eue et qui a influencé tous ses disciples. Hegel, en systématisant les trois moments de l'histoire, et en arrivant à cette dialectique, d'un côté, il y a chez lui un protestantisme certain, un luthérianisme dans l'histoire, et de l'autre, il y a un athéisme certain, parce que la dernière triade chez lui, c'est l'esprit absolu est atteint, il est dans la conscience du philosophe, il n'est pas en Dieu. Donc c'est le philosophe qui contient Dieu, et je trouve Alexandre Kojève a bien vu que c'était finalement l'athéisme. Alors, ici, vous le présentez comme étant une tentation, un danger contre la Trinité. Or, la Trinité ne peut pas être touchée par la dialectique hegelienne. Elle a fabriqué Marx et le communisme, mais la Trinité hegelienne reste purement artificielle et conceptuelle, même s'il a voulu l'incarner dans l'histoire.
Oui. J'ai cité Hegel à titre d'exemple parce que il est un des rares qui réfléchit, enfin qui dit réfléchir expressément sur le mystère de la Trinité. En réalité, C'était vraiment à titre exemplatif. En réalité, c'est tous les mécanismes dialectiques ont quelque chose de trinitaire parce que ternaire. L'idée d'un passé mauvais, d'un présent de combat et d'un futur radieux est fondamentalement la contrefaçon du vécu chrétien trinitaire. Alors, c'est là où une des choses que j'ai comprises très tardivement, quelque chose comme 6 mois seulement avant la fin de l'écriture du livre, et grâce à une amie soufie qui me posait des questions auxquelles je ne savais pas répondre. Le problème était celui-ci, qu'est-ce qui fait que ces dialectiques sont si séduisantes? Qu'est-ce qui fait que des peuples entiers, ou presque, ça donne à des messianismes complètement fous ou alors à des formes de gnose, tout aussi délirantes? Parce que ils ont l'impression d'y trouver quelque chose d'absolu. C'est-à-dire, ils ont l'impression de vivre quelque chose qui dépasse la condition humaine normale. Comme si, il vivait quelque chose de divin. Et il faut prendre ça au sérieux. Pourquoi? Si, nous sommes engagés véritablement dans un combat de l'humanité pour sortir, d'un passé mauvais, et d'aller vers un futur radieux, notre vie a un sens absolu. Et cette idée, donc, passé, présent, futur, dialectique, a été thématisée par Joachim de Flore. En tout cas, c'est ce que Henri de Lubac a mis en lumière, comme en relation avec la Trinité. Donc le passé est souvent d'ailleurs associé au Père, donc à Dieu le Père, mais aussi au Père humain. Le présent de lutte, est associé à la lutte menée par notre Seigneur Jésus-Christ, et le futur, alors, est associé à l'Esprit Saint qui devrait encore venir. C'est là où on voit l'inversion trinitaire, parce que la vie chrétienne fonctionne inversement. Qu'est-ce qui est premier dans la vie chrétienne? C'est l'Esprit Saint qui convertit. C'est ensuite la conformation à notre Seigneur Jésus-Christ, réalisée par les sacrements. Et enfin, ce sera l'entrée vers le Père par le Fils. Jésus nous conduira vers le Père.
Et c'est justement là, Père, qu'il faut revenir, parce que Joachim de Flore, bon, ça lui a permis de fonder une communauté religieuse après, mais c'est
Oui.
Augustin qui est le vrai père de cette histoire dans son livre qui s'appelle le De Trinitate. C'est là où il va exprimer que cette analogie trinitaire est dans l'âme humaine, puisque je
Oui,
pense, je
attention.
parle et j'agis. Et les psychanalystes, les psychologues se sont emparés de ce livre pour dire, mais la vraie analogie trinitaire que Joachim de Flore va reprendre, et elle est dans Saint-Augustin. Et je trouve que en plus et plus loin que Lubac, le pape Benoît XVI a écrit un livre sur Joachim de Flore, sur la philosophie de l'histoire, et c'est un Bonaventure et tout ça, qui explique bien cela. Joachim de Flore a failli être excommunié, comme vous le savez, mais il a duré avec sa communauté. Et à mon avis, la plus proche de nous analogie de la Trinité, c'est notre âme. Et puisque, justement, nous communions au Christ, et à partir de là, nous établissons l'harmonie de la Trinité.
Vous faites une confusion, excusez-moi, vous faites une
Aucun
confusion
problème.
entre la création et la rédemption. Nous sommes à l'image de Dieu, donc, explique saint Augustin, nous sommes par excellence une image en étant à la fois intelligence, volonté et mémoire. Mémoire, le Père, intelligence, le Fils, volonté, l'Esprit. Et il a raison. Mais ici, on ne parle pas du mystère de la création, on parle du mystère de la rédemption.
Oui, mais la rédemption, elle est dans l'histoire, elle se fait. Et c'est
Ah
pourquoi,
oui,
et ce qu'il a dit dans le
c'est la
dé,
différence.
c'est, je ne confonds pas, pour moi, c'est mon interprétation, parce que du De Trinitate, de cette analogie dans l'âme humaine, je pense, je parle, j'agis, et en plus, il va plus loin. J'aime penser, j'aime parler et j'aime agir. Chaque fois dans les actes de l'intelligence, de la volonté, de la mémoire, il y a l'acte de l'amour. J'aime mon intelligence et je parle. J'aime ma parole et j'agis. Et il va l'appliquer sur la cité de Dieu. Et dans la cité de Dieu, tout le grand principe de la cité de Dieu. Aujourd'hui, on nous fait sortir des livres sur la cité de Dieu. Ben, je la cite, Chantal Delsol, pour résoudre le problème de l'immigration. Mais Saint-Augustin était un berbère. Et il vivait comme il pouvait. Les Vandales ont été christianisé avec une force supérieure de la théologie. Et quand on regarde la cité de Dieu, et là je vous laisse réagir à mon interprétation et non pas à ma confusion, c'est que dans la cité de Dieu, Augustin a voulu montrer le pèlerinage de cette cité qui, partant, comme il dit, c'est toute la première phrase de la cité de Dieu, elle va vivre ses deux amours, l'un, l'homme qui s'aime tellement lui-même qu'il va finir par détester Dieu. Et là, c'est toute la dialectique marxiste, athéiste qu'on trouve après le hégélianisme. Et aimer Dieu jusqu'au mépris de soi qui va créer la cité de Dieu. Et entre cette cité terrestre et la cité de Dieu, l'âme, elle est rattrapée. La création devient une rédemption.
Le problème de Saint-Augustin dans la Cité de Dieu, c'est que sa vision, elle est finalement statique. Ce n'est pas la vision révélée de l'histoire. Et on voit là toute sa pensée, comme j'ai de philosophe latin. Au début, Saint-Augustin, au début de son épiscopat, il était encore ouvert à la pensée de Saint-Irénée. Et puis après, enfin par la suite, il s'en est détourné. La vision de l'histoire qui nous est révélée, c'est une vision qui commence avec la création et qui se termine dans l'entrée en gloire de la création,
Oui, mais ça, c'est
avec...
que c'est ainsi que se termine la cité de Dieu, puisqu'il imagine à la fin ce paradis où la résurrection des corps et tout ce qui est convenant est convenable.
Oui, mais ça advient
C'est
comment?
la cité de
Ça
Dieu,
advient
oui.
comment?
Ben, ça advient par la purification intérieure, par la rédemption christique, et puis on retrouve l'accord par l'amour des trois facultés de l'homme
Oui,
qui
mais ça ne
sauvent.
va pas. C'est justement ce qui ne va pas et qui est d'ailleurs complètement irréaliste.
Mais le mot salut, quand on regarde la racine du mot salut, Père, c'est la totalité. Et c'est cela qui est extraordinaire dans la totalité. À mon avis, la dialectique hégélienne et marxiste est une déviation de la dialectique d'Augustin, qui n'est pas une dialectique, qui est une marche intérieure de l'âme dans l'histoire.
Oui,
Mais je
c'est
vous
pas.
laisse boire un
Non,
verre d'eau. Je vous laisse
mais
boire un verre d'eau
c'est.
parce que la technique a besoin et je vous retrouve juste pour ne
D'accord.
pas finir comme des boxeurs en train de se donner les coups. Mais on revient, création et rédemption, dialectique hégélienne, Saint-Augustin, système hégélien et cité de Dieu. Et bien sûr, le christianisme en dialogue avec les religions. Voici le thème de cette émission et mon invité, c'est le père Édouard Marie Galaise, en personne de la monarchie belge, que Chopin s'exprime un peu.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Bon père, je sens qu'on va faire une autre émission ensemble sur Augustin, et peut-être j'inviterai Chantal Delsol, que vous connaissez, et qui vient de commettre, pas un crime, mais un livre sur Augustin, comparé à l'immigration d'aujourd'hui. Mais on verra quand on l'aura lu, on fera un dur. Mais là, j'arrive dans ce... C'est passionnant, votre travail, père, et vous arrivez à la fin à ce que vous appelez le vécu trinitaire inversé. Et ça va vous permettre de conclure sur beaucoup de choses, surtout la parole que j'ai reprise dans mon introduction, ma petite chronique, c'est-à-dire celui qui ose dire « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». Alors, qu'est-ce qu'un vécu trinitaire inversé ?
Alors, pour le dire simplement, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile à comprendre, c'est le chapitre 6 du livre, c'est à la fin que beaucoup de choses se jouent, c'est vraiment la pointe du livre. L'inversion trinitaire, c'est donc de renverser cette perspective où l'Esprit Saint premier, le Fils deuxième, le Père troisième, y compris d'ailleurs au point de vue de l'histoire globale de l'humanité. Le temps de l'Esprit a commencé à la Pentecôte. Nous sommes dans les derniers temps, ce sont les expressions du Nouveau Testament. Le temps du Fils suivra la venue glorieuse du Christ, et le temps du Père viendra en troisième, ce sera l'éternité, quand le Fils remettra à son Père, explique saint Paul, en 1 Corinthiens chapitre 15, remettra à son Père son royaume. Donc, c'est en quelque sorte... Un phénomène de reflux, si on peut dire que le flux, c'est les processions trinitaires, Père, Fils, Esprit. Il y a quand même un certain nombre de saints qui ont pensé, l'un des derniers dans la liste étant saint Maximilien Kolb. On peut toujours critiquer en disant que la Trinité est dans tout et que ce qui est l'œuvre de l'Esprit est aussi l'œuvre du Fils et du Père, mais justement, il y a pour nous, dans notre vécu personnel ou collectif, une distinction qui s'impose mystérieusement et que la Vierge Marie a vécu avant tout le monde. La Vierge Marie est devenue mère par l'action de l'Esprit Saint. Elle a donné naissance au Fils, et à la fin de sa vie, à l'Assomption, elle est allée vers le Père. Alors l'inversion, c'est très simple, là où on a normalement en premier l'Esprit Saint, deuxièmement le Fils, troisièmement le Père, on inverse, on a Père premier, Fils deuxième, Esprit Saint troisième, l'Esprit Saint devant encore venir. Dit comme ça, c'est tout simple, mais c'est... Il m'a fallu des années pour comprendre. Tant mieux si tous nos auditeurs voient immédiatement ce que je veux dire. Moi, il m'a fallu vraiment beaucoup, beaucoup d'années pour comprendre. Mais si, je voudrais terminer, si je puis, en disant qu'au fond, le premier problème à attaquer, c'est de retrouver le sens de la rencontre du Christ. C'est vraiment le nœud de tous les problèmes théologiques d'hier, d'aujourd'hui et probablement encore de demain. C'est là où tout se joue. Les convertis ne me contrediront pas, pour eux, il y a un avant et un après dans leur vie. C'est vrai aussi pour l'histoire de l'humanité. C'est vraiment de là, de ce regard sur la rencontre du Christ, enfin des différentes rencontres du Christ, qu'il faut repartir pour bâtir une théologie équilibrée qui manque terriblement aujourd'hui. Rares sont ceux qui peuvent, qui osent, ou les deux ensemble, encore parler de l'au-delà, que ce soit de l'au-delà personnel ou l'au-delà collectif.
Et pourtant, père, vous citez un exemple concret qui peut éditer les auditeurs non théologiens, c'est que vous avez une sorte de fascination pour le père Maximilien Kolb, qui est mort
Oui.
martyr donc à Auschwitz en 41, et qui est pour vous est un théologien de la Trinité. Vraiment regarder la Trinité par rapport à nous, par rapport. Alors Maximilien Kolb arrive là pas comme un concept, comme un exemple de vie. Comment vous le
Oui.
déployez?
Oui. Depuis lors, j'ai trouvé d'autres théologiens qui avaient un peu les mêmes intuitions que lui. Mais c'est un théologien marial. C'est pour ça que la personne de Marie est tellement importante pour la vie chrétienne, parce qu'elle nous introduit correctement dans un mystère qui nous dépasse. Le mystère de Jésus nous dépasse complètement. On rame pour ne pas le déformer, mais avec la Vierge Marie, on comprend mieux ce qui s'est passé et ce qui se passe encore, si vous voulez, aujourd'hui dans nos vies. Elle nous introduit dans le mystère. Et le mystère, c'est pas un concept ou un jeu de concepts intellectuels, c'est la réalité historique. On peut un peu conceptualiser si on veut, mais en faisant très, très, très attention, très attention. L'histoire, c'est d'abord des événements qui ont un sens.
Donc, c'est imaginer la Trinité à partir du chemin de la croix. On n'a pas
Du chemin de
d'autre.
la croix à l'école de la Vierge Marie.
Et vous citez Irénée d'ailleurs, comme bien avant Kolb, et la citation est tellement belle dans Adversus Aresis, donc la référence que vous donnez, l'Esprit préparant l'homme pour le Fils de Dieu, in filium Dei, le Fils le conduisant au Père, et le Père lui donnant la vie éternelle, incorruptible, qui résulte pour chacun du fait qu'il voit Dieu. Ex eo Deo videat Deum. Donc, à votre avis, Irénée est le premier en tout, là. Il va
C'est
plus
assez.
loin qu'Augustin même.
Je sais, enfin, il est le premier parce qu'il est, il est encore presque de l'époque des apôtres. Il a peut-être rencontré l'un ou l'autre apôtre étant enfant, disciple de Saint Polycarpe, Polycarpe, disciple de Saint Jean. C'est évidemment une force que je pense que, bon, comme oriental, vous ne me contredirez pas, la transmission se fait d'abord de personne à personne. Quand on a connu des gens qui nous ont transmis quelque chose, on a reçu une richesse. Le problème déjà des apôtres et puis de leurs successeurs a été de transmettre ce qu'ils avaient reçu en premier lieu de Jésus lui-même, et ils ont fait leur possible, chacun de leur côté, chacun de son côté, avec des résultats, bon, pas toujours idéaux, il faut bien le dire, d'où la nécessité d'écuménisme. J'en profite d'ailleurs pour dire, on termine aujourd'hui la semaine de prière pour l'unité. On a besoin de toutes les traditions occidentales et orientales qui s'enracinent dans des apôtres, parce que le problème de la tradition, donc, c'est la transmission, et la transmission ne s'enrichit pas toute seule, elle a plutôt tendance à s'appauvrir. C'est aussi vrai au niveau génétique, hein. Donc, on a besoin des autres, des éclairages d'autres traditions qui ont peut-être parfois perdu d'autres aspects que nous. Et toujours essayer ensemble de retourner aux sources.
Aux sources, oui, tout à fait, Père. Et pour un peu revenir aux dangers que vous avez décrits des messianismes, vous voyez des dangers parce que, et vous dites même des caricatures de l'action du Fils par les messianistes rédemptionnistes, et puis des caricatures de l'action de l'Esprit par ceux qui veulent rendre libre. Et pourtant, si je reviens à Augustin, il y a un endroit, donc, quand il parle dans les Confessions de la nature du temps, de cette distensio animi, cette distension de l'âme que nous avons en nous, il va tout faire à la fin pour dire, bon, il y a la dimension de cette mémoire qui nous pousse vers le passé, puis de cette attentio memoria et l'attentio qui nous donne le présent, et puis l'expectatio qui nous donne l'avenir. Mais à la fin, il prend l'exemple du cantique. Il dit finalement, attention, c'est pas passé, présent, futur, c'est plutôt le futur, comme un chant que je chante, qui vient vers moi, devient présent et dans le passé. Donc, on se retrouve là. Et vous citez la phrase d'Augustin, finalement, que lorsqu'on parvient à lui, au Fils, on parvient aussi au Père, car c'est par son égal que nous est connu celui auquel il est égal. Cependant que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit nous lie, et pour ainsi dire, nous arrache à eux deux, afin que nous puissions demeurer à jamais dans le bien suprême et immuable. Bah, je trouve, là, nous avons la solution pour celui qui nous dit tout simplement « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». Sauf que le mot « chemin » nous ramène à sa passion, à l'histoire de sa vie incarnée. Ces 3 années publiques redoutables. Nous sommes d'accord sur ce point.
3 années publiques redoutables. Puisque vous citez donc cette citation de Saint Jean, « Chemin, vérité et vie », je me suis souvent demandé pourquoi Jésus avait donné 3 analogies, voilà, on peut vraiment dire 3 analogies pour exprimer son mystère. Eh bien, parce qu'elles ne sont pas équivalentes, elles se complètent. Le chemin, effectivement, le chemin, c'est celui qui l'a vécu, comme vous dites. Et un chemin, par définition, est un peu clivant, même très clivant. Il y a ceux qui sont sur le chemin et ceux qui ne sont pas sur le chemin. Et il y a des paroles de Jésus qui sont très dures à ce point de vue-là.
Voilà.
Mais il dit aussi, je suis la vérité. Alors la vérité, c'est d'une certaine manière beaucoup plus large. Tous les chercheurs de vérité sont concernés. Même s'il n'y en a pas suffisamment dans le monde, mais on en trouve partout. Et enfin, je suis chemin, la vérité et la vie. Là, c'est encore plus large. Ça touche, au fond, et ça concerne tous les gens qui sont soucieux de promouvoir la vie, de la défendre, sous quelque aspect que ce soit. On ne peut pas réduire Jésus à n'être qu'un chemin ou qu'une question de vérité ou qu'une question de vie. C'est les 3 ensemble.
Voilà. Et nous terminons, Père, après cette passionnante rencontre qui passera le mardi 10 février à 19h30 jusqu'à 21h dans mon émission qui s'appelle Journal libre de la francophonie. Heureuse. Donc, vous venez d'écouter, chers auditeurs, pas en direct, mais enregistré, ce dialogue qui peut sauver une âme du royaume de la Belgique, ou comme disait Louis-Philippe, des Belges. Et le père Édouard-Marie Galèze, qui a fait une très belle thèse sur l'islam, en dialogue avec les maronites, les chrétiens d'Orient, qui a une association qui s'appelle ECHO, n'est-ce pas, père ? Qui œuvre à des colloques avec le père Guéguin, avec d'honorables, une sorte de communauté à la Joachim de Flore, mais qui n'est pas condamnée, et qui me permet de condamner, non pas les religions qui ne croient pas dans le Christ, mais de le citer à la fin de son livre, qui propose un chemin, une vie, une vérité. Et il dit, dans le monde et l'histoire, les chrétiens tiennent une place unique. Sans uniformité, certains se sentiront portés à servir plutôt le chemin, d'autres à chercher et promouvoir la vérité, d'autres encore à œuvrer pour la vie. Ces divers engagements ne sont pas concurrents entre eux, mais complémentaires. Tous reflètent la vie jaillissante et trine qui est en Dieu, dans l'attente de ce qu'il doit faire encore. Il faut regarder vers l'avenir. Vous devinez la fin de la phrase, père. Il faut regarder vers l'avenir avec confiance et avec le Christ. Donc, voilà. Le père a eu l'autorisation, non pas du roi de Belgique pour me parler, mais du roi des rois. aidé le roi du royaume dont le règne n'aura pas de fin. Il paraît que Thérèse d'Avila, quand elle arrivait à ce verset du credo, elle tombait en extase. Elle pouvait plus continuer. Donc, mauvaise en catéchisme. Là, on peut s'arrêter à cette phrase. Et je laisse Père Chopin terminer avec les accents de ses préludes. Et je vous retrouverai une autre fois pour parler de la cité de Dieu de Saint-Augustin et d'autres visions. Joachim de Flore, et on va essayer de revenir à ça. Que Chopin termine cette émission. Au revoir.
Merci. Père. Bonne soirée.
Vous venez d'entendre le libre journal de la francophonie heureuse, dirigé par Antoine Assaf. Émission préenregistrée le 25 janvier 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie mardi 10 février, de 19h30 à 21h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.